Vous écoutez RTL.
Et tout de suite, le défi de la voiture autonome avec les confrères du magazine Science et Avenir. Bonjour Arnaud de Villard.
Bonjour.
Soyez le bienvenu, vous êtes journaliste. Merci. Bon, c'est quoi une voiture autonome si on devait la définir ?
Et tout simplement une voiture qui roule toute seule sans qu'un chauffeur n'ait en théorie à appuyer sur des pédales, à tourner le volant.
Mais roule-t-elle vraiment toute seule ? C'est-à-dire on monte dedans, on entre son adresse comme dans un GPS et on attend ?
Le but c'est ça, effectivement. Après, si on y arrive, on n'y est pas encore. Mais
oui, c'est ce qu'on va raconter avec vous, justement, et c'est ça qui est passionnant. En France, est-ce qu'il y en a déjà en test ou même sur les routes on a pu en croiser une, nous, quand on est à bord de notre véhicule ?
Il y a plusieurs tests qui sont menés, notamment l'an dernier, la fin de l'année dernière, Il y a pas mal de choses qui se font au niveau des navettes de transport en commun, notamment dans la région parisienne, à RATP, tout simplement.
Ah oui, il y a
des petites navettes autonomes. Il y avait un des exemples fameux, c'était sur le pont Charles de Gaulle qui reliait la gare d'Austerlitz et la gare de Lyon. Il y avait pendant 3 mois, il y avait une petite navette qui circulait.
Ça marchait bien ?
30 000 personnes l'ont testé. Oui, ça marchait, mais non, je ne m'en souviens pas.
On y viendra aux accidents. La voiture autonome, voiture qui pose de nombreuses questions. L'intelligence artificielle peut-elle vraiment remplacer notre intelligence, notre intention, mais aussi la morale humaine ? Réponse à venir sur RTL.
RTL. Il existe plusieurs technologies de voitures autonomes, mais grosso modo, elles fonctionnent toutes à peu près de la même manière, à l'aide de radars et de capteurs.
La curiosité est un vilain défaut.
Dans une voiture autonome, c'est le logiciel qui pilote. Le programme analyse en temps réel les données fournies par les radars et les capteurs, et il agit sur la vitesse, la direction, en tenant compte, évidemment, des règles de conduite qu'on lui a entrées en mémoire.
Si Denis Bonnec, Thomas Hugues.
Une voiture autonome est plus sûre qu'une voiture conduite par un humain.
Les curieux sont sur RTL.
Monter à bord d'une voiture autonome pour mieux la comprendre, c'est ce que l'on vous propose de faire avec le magazine Science et Vie et le journaliste Arnaud
Science
de Villard.
Avenir, bon,
j'ai dit quoi ?
Science et Vie. Ah
oui, Science et Avenir, pardon.
Concurrent.
Mais c'est la musique choisie par notre réalisateur Sébastien Duduc qui m'a un peu.
C'est Joe Dassin, non ?
Un peu troublé.
À Paris, à vélo.
Ah, Arnaud de Villard, on est avec vous. Vous êtes journaliste et vous avez consacré un dossier passionnant dans le magazine Science Avenir sur ce thème. Vous avez d'ailleurs eu la chance, alors je ne sais pas si c'est une chance, de découvrir ou de monter à bord d'une voiture autonome. Contrairement à ce qu'on a entendu dans la mise en onde, c'est pas si sûr que ça encore pour l'instant. Mais avant d'en parler, on fait le tour du propriétaire. Ça ressemble à quoi une voiture autonome ? Comment elle est équipée ?
Actuellement, ça ressemble physiquement à une voiture telle qu'on en connaît.
Ça peut être n'importe laquelle.
La plupart du temps, c'est des voitures qui sont disponibles pour le grand public, qui sont rééquipées avec toute une batterie de capteurs, de radars, alors, etc.
Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu, parce qu'il y a un dessin formidable mais qui ne passe pas bien à la radio, forcément, où l'on voit la voiture avec les radars, capteurs, lidar, ordinateurs. Ça se dispose comment sur la voiture ?
Principalement, ce qu'on remarque tout de suite sur une voiture de ce genre, c'est un système qu'on appelle le lidar, qui est sur le toit de la voiture, qui ressemble un peu à une espèce, pour simplifier, un énorme gyrophare.
Ouais.
Et en fait, c'est ce qu'on appelle un lidar. C'est un capteur qui fonctionne sur le principe du radar, mais en envoyant des ondes lumineuses.
Et qui sert à quoi ? Qui capte quoi ?
Il envoie des ondes lumineuses à 360 degrés, donc il tourne très très vite. Et il sert, en gros, pour faire simple, à cartographier l'environnement de la voiture. C'est-à-dire à évaluer les distances des objets qui sont autour d'elle, à essayer d'évaluer ce qui s'y trouve, combien de temps on va les rencontrer, etc. Donc c'est un système qui permet de se repérer dans l'espace et en 3 dimensions.
Et
le cerveau, l'intelligence artificielle, quel est son job ? C'est de digérer la masse d'informations que tous ces capteurs, radars, lidar, je viens d'apprendre ce mot, lui envoient ?
Alors, c'est effectivement un ordinateur qui est souvent embarqué, en gros, à la place du coffre de la voiture, un ordinateur spécial qui est dans la voiture.
Ah, mais il n'y a plus de coffre, alors ?
Alors, c'est un des arguments des anti-autonomes.
Voilà,
je mets ma valise.
Je prends pas mal de place pour mettre les valises.
Ouais.
Et qui, effectivement... dans un temps très rapide, analyse toutes les données qui lui sont envoyées, ramenées par les capteurs, et va évaluer ce qui se passe autour de la voiture pour ensuite prendre ce qu'on appelle une décision. Bon, voilà, c'est un peu abusif comme terme, mais voilà, la voiture va prendre une décision en fonction des calculs qu'elle va faire et des données qu'elle a reçues.
Et on va voir ensemble que la décision, elle est parfois difficile à prendre, même pour une voiture supposée ultra intelligente avec toute la nouvelle technologie. Ça existe depuis quand ? C'est l'idée, la naissance de cette première voiture autonome, c'est il y a longtemps, 5 ans, 10 ans, ça fait combien de temps?
En théorie, c'est un vieux fantasme, mais voilà, ce qu'on appelle aujourd'hui la voiture autonome, telle qu'on la connaît, qu'on l'imagine, c'est Google en 2009 qui a commencé ses premiers tests sur des Toyota et des Prius. Et voilà, les choses se sont...
Et là, aujourd'hui, il y a un enjeu économique important, c'est-à-dire qu'il y a les géants d'Internet, mais pas que, c'est ça?
C'est ça, en fait, il y a plusieurs enjeux, même certainement des enjeux qu'on ne connaît pas, mais effectivement, il y a des enjeux tout simplement de services, par exemple, des gens comme Uber et Lyft, ce qui s'intéresse, c'est de proposer un service, a priori, avec moins de gens
à rémunérer,
payer pour délivrer ce service.
Sauf qu'il faut quand même entretenir ses voitures. Donc
Mais et des gens comme Google, par exemple, c'est pas sûr qu'ils veuillent faire des services de voitures autonomes. Eux, ce qui les intéresse, c'est la techno, l'intelligence artificielle, qui peut-être après...
Et les constructeurs.
Et effectivement, vous avez tous les constructeurs automobiles qui s'y sont mis, peut-être après coup, mais qui s'y sont tous mis. Quoi.
Arnaud de Villard, Uber qui vient d'essuyer un terrible revers. Que s'est-il passé le 18 mars dernier lors d'une expérimentation? On est dans les rues de Tempe, c'est ça, en Arizona?
Oui, c'est une large avenue en Arizona, à Tempe, où Uber fait des tests depuis quelques années. Et une piétonne a été percutée par une voiture autonome, donc c'était la nuit, et elle en est morte.
Donc le LIDAR n'a pas fait son boulot, le radar,
les radars n'ont pas fait effectivement leur travail. Les tout premiers éléments de l'enquête, la police a remarqué qu'il n'y avait même pas de trace de frein. C'est-à-dire que la voiture, non seulement elle n'a pas eu le temps de s'arrêter, mais elle n'a même pas eu, apparemment, elle n'a pas vu qu'il y avait quelque chose devant elle, et elle est passée dessus tout droit.
Pourquoi les voitures autonomes ne sont pas encore prêtes à remplacer les conducteurs? On entre dans le véhicule et dans le détail pour comprendre. Restez sur RTL, les curieux.
RTL, 14h-15h.
RTL,
la curiosité est un vilain défaut.
Et on continue de se passionner pour la voiture autonome avec le journaliste Arnaud de Villard du magazine Science et Avenir qui consacre un dossier sur ce thème. C'est en partenariat avec RTL. Alors, vous nous avez décrit un petit peu la voiture autonome type. Aujourd'hui, c'est une voiture d'un modèle classique dans laquelle on a rajouté des capteurs, des caméras, ce LIDAR qui est sur le toit et qui permet d'avoir une vision un peu à 360, j'imagine, et de donner le plus d'informations possible à l'ordinateur centrale, mais ces capteurs ne sont pas adaptés. Là, on va faire un peu la liste des écueils. Ces capteurs ne sont pas adaptés à tous les temps, à toute la météo. Pourquoi?
Alors, effectivement, la plupart des situations de tests, d'expérimentation qui sont menées se font par temps clair, on va dire. Voilà, quand il ne pleut pas, quand il ne neige pas, quand il y a une bonne luminosité, parce que la pluie, les flocons de neige, par exemple, pour ne citer que ces deux exemples principaux, nuisent, en gros, pour faire simple, à la diffusion de la lumière. Et donc, du coup, à l'info qui va être amenée à l'ordinateur de la voiture.
Ça trouble la vision.
Oui, mais enfin, c'est pas une voiture qu'on peut sortir que quand il fait beau, la voiture autonome, donc c'est étonnant de ne pas y penser.
Justement, il y a beaucoup de tests qui de plus en plus sont menés actuellement explicitement pour lutter contre la vision sous la neige.
Parce que sinon, à Paris, premier trimestre 2018, on ne l'a pas sorti une seule fois, c'est clair.
Un investissement plus rien. Il y a la pluie et la neige, mais aussi les reflets, les changements de luminosité qui gênent la voiture autonome.
Oui,
pour quelle raison?
Mais en fait,
à quel moment, par exemple,
que nous,
aussi,
en tant qu'humains, quand on voit une image... On n'a besoin que d'une fois pour comprendre que c'est une image réelle ou une image, une peinture ou une publicité ou un trompe-l'œil sur un mur. L'ordinateur, il ne sait pas. Il ne sait pas ce que c'est qu'un trompe-l'œil.
Sauf si on l'a programmé, mais ça veut dire qu'il faut avoir programmé tous les trompe-l'œil du monde.
Ouais,
quoi.
Ouais. Et surtout qu'il identifie qu'est-ce qui fait un trompe-l'œil, qu'est-ce qui fait une image en 3D, qu'est-ce qui fait une image en 2D, en 2D simulé, en 3D simulé. Enfin, donc rien que ça, c'est un casse-tête.
Moi, il y a une situation qui est parfois gênante en tant que conducteur, c'est quand il fait, là pour le coup, très beau, et qu'on passe du plein soleil à un tunnel. Est-ce que ça, les voitures autonomes ont du mal à le gérer?
Oui, bien sûr. Déjà, nous, en tant qu'humains, il y a cet effet d'éblouissement, on a besoin de s'adapter quand on sort d'un tunnel, une zone sombre. Et effectivement, les voitures autonomes ont énormément de mal, les capteurs de ces voitures ont énormément de mal à gérer ça, les caméras, pour être simple. Et c'est d'ailleurs arrivé l'an dernier avec une voiture Tesla qui a confondu un ciel blanc avec un camion avec la remorque blanche, je ne savais pas trop distinguer l'un de l'autre.
Et là, quelle décision est envoyée alors par l'ordinateur? Arrête-toi ou fonce?
C'est pour ça qu'il y a plusieurs capteurs. Si un capteur n'arrive pas à distinguer ce qui se passe, notamment en l'occurrence en sortant d'un tunnel, une caméra n'arrive pas à savoir s'il est dans le noir, dans le blanc, la lumière, vous avez d'autres capteurs, des radars, des lidars, qui eux vont envoyer une autre information. Et vous avez un système qui pondère, qui, si un capteur qui n'a rien repéré, mais que d'autres capteurs ont repéré quelque chose, même si on ne sait pas ce que c'est, la voiture va effectivement prendre une décision, on va ralentir, on va s'arrêter. Donc y a, le but c'est ça, d'avoir plusieurs capteurs, c'est de renforcer un peu la, d'avoir un peu de redondance, mais par des biais différents, pas avoir simplement que des caméras.
Pallier l'expérience que la voiture n'a pas et que l'humain a.
C'est ça, ben en fait, d'une certaine manière, c'est un peu péjoratif, mais c'est un peu du bricolage. Voilà. Ce que nous, on est presque intuitivement capable de faire, c'est-à-dire de capter plein d'infos et de les analyser vite et d'engranger un peu de l'expérience au fil du temps. Comme la voiture, elle a beaucoup de mal, donc voilà, on bidouille, on met plein de lidars, plein de caméras. Ouais.
Mais il y a des choix impossibles dans lesquels la morale entre en ligne de compte. On a fait un test dans l'équipe de la curiosité depuis quelques jours. Vous pouvez faire ça sur Internet, ça s'appelle Moral Machine, la machine morale. Et il s'agit de choisir entre deux situations. C'est horrible ce que je vais dire, mais vous arrivez sur un passage piéton, vous roulez trop vite, il y a trop de monde, vous ne pouvez pas vous faufiler, vous choisissez d'écraser qui ? La petite vieille avec sa canne, la femme enceinte, le jeune garçon, et on ne peut pas choisir ça. Comment la machine fait avec ces décisions-là qui sont impossibles ?
Effectivement, ça fait référence à une situation, on va dire théorique, très connue chez les chercheurs, qui s'appelle le dilemme du trolley, et qui effectivement, qui est un véhicule, qu'est-ce qu'il va décider de faire, quel est le choix le moins pire qu'il va devoir faire ? Est-ce qu'il faut écraser un enfant, écraser une personne âgée, etc. Et donc ce dont vous parlez, The Moral Machine, effectivement, c'est un test mis en place par des chercheurs pour voir un peu ce que les gens étaient prêts à faire dans une situation de, on va dire, de dilemme, quoi. Et à ce jour, on ne sait pas répondre à cette question.
Bah non. Et donc la machine ne pourra pas plus répondre que nous.
Certains chercheurs disent que c'est purement théorique, que ça n'arrivera jamais, que d'ici ce que ça arrive, on aura forcément résolu la question.
Et l'humain est-il vraiment moral aussi quand il choisit ?
On ne sait pas ce qu'on va faire. Et surtout, ça pose une autre question au-delà de la morale, qui est celle de la responsabilité.
Alors justement, la question juridique, on va en parler dans un instant sur RTL, parce qu'elle est essentielle quand on évoque ce thème des voitures autonomes. À tout de suite.
Toute la journée, vos artistes préférés sont sur la première radio de France.
RTL vous fait découvrir les dernières nouveautés.
Sans oublier vos standards préférés.
On aime la musique sur RTL.
RTL, première radio de France.
La voiture autonome va vous libérer. Elle va vous permettre de décider quand est-ce que vous voulez conduire et quand est-ce que vous voulez que la voiture vous conduise.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
L'enjeu sécurité à l'échelle mondiale. 1 400 000 personnes qui meurent tous les ans sur les routes. Une voiture autonome réduit de 90% le risque d'accident.
La curiosité est un vilain défaut.
Quand vous êtes en conduite autonome, la voiture ne va absolument transgresser aucune règle.
Si votre défaut c'est la curiosité, alors vous êtes bien sur RTL.
Carlos Ghosn, le PDG du groupe Renault, au micro de notre journaliste Julien Fautra, dans une mise en onde de notre réalisateur Sébastien Duduy. On évoque les failles de la voiture autonome, c'est le thème de notre curiosité et le titre du dossier passionnant du magazine Science et Avenir, sous la plume de notre invité Arnaud De Villard. Thomas évoquait la question de la responsabilité. Bah oui, quand on va pouvoir vraiment utiliser nos voitures autonomes, s'il y a un accident, qui est responsable ? Le passager, propriétaire donc de la voiture autonome, ou bien le constructeur automobile ?
Ah oui, c'est toute la question, effectivement. Vous avez employé le terme en plus en hésitant, passager, propriétaire. Qui va être dans la voiture ?
Est-ce
que c'est le passager ? Est-ce que c'est le conducteur ? Est-ce qu'on parle encore de conducteur ? Est-ce que c'est juste un passager ?
Oui, si on est assis devant, est-ce que c'est la même chose que si on est assis derrière ?
Exactement. Et s'il y a un accident, c'est qui le responsable ? Effectivement, cette personne-là, ou alors le constructeur de la voiture, ou le constructeur de la technologie, donc du coup, le fabricant de logiciels, le fabricant des capteurs. Donc il y a des enquêtes qu'il va falloir mener.
Ça veut dire que rien n'est décidé pour l'instant.
Surtout, essayer de comprendre pourquoi un algorithme a décidé de prendre telle décision. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est un des enjeux de la recherche, c'est-à-dire qu'on ne sait pas faire. Pourquoi les algorithmes d'intelligence artificielle qui sont notamment utilisés dans la voiture autonome, on ne sait pas expliquer pourquoi ils ont pris telle décision.
Mais alors, je rebondis sur ce qu'on vient d'entendre de Carlos Ghosn, le patron du groupe Renault. C'est récent, hein, c'était novembre dernier, novembre 2017, où il dit que la voiture autonome, ça va permettre de faire baisser le nombre de morts sur les routes au niveau mondial. C'est un vœu pieux, c'est un fantasme.
Alors déjà, en fait, c'est l'argument principal qui est avancé tout le temps, parce que déjà, c'est plus compréhensible. C'est plus, voilà, pourquoi faire de la voiture autonome si c'est pas pour faire plus de sécurité. Mais c'est pas forcément l'enjeu. C'est un des enjeux. Bon, faut être honnête. Hein. Mais c'est pas forcément l'enjeu le principal de tout le monde. Voilà. Je disais, Google, par exemple, son enjeu, c'est surtout développer de l'intelligence artificielle, des algorithmes solides, en amassant des données. Il y a aussi toute une notion de confort. Pour beaucoup, la voiture autonome, c'est un moyen d'être tranquille en voiture, de pas avoir à se soucier de la conduite. La conduite, pour certaines personnes, c'est un moment... c'est pénible, quoi. Ça ennuie tout le monde.
Ah oui, on pourra faire autre chose.
On pourra faire autre chose, voilà. C'est aussi pour ça que c'est conçu. Ce que la plupart des gens disent, des chercheurs notamment, c'est qu'il y aura des accidents avec la voiture autonome. Et la preuve, c'est qu'il y en a déjà eu. Et il y en a déjà eu un piéton qui a été tué. Mais il y aura des accidents avec la voiture autonome. D'autant plus si la voiture autonome doit conduire de plus en plus comme un humain.
Ouais, et donc avec pas mal de batailles juridiques, si j'ai bien compris, à venir. Alors en lisant votre article dans Science et Avenir, il y a un petit truc qui m'a fait tiquer. Parce que je prends parfois mon vélo pour venir à RTL. Et alors là, je lis que... Grosso modo, les vélos changent trop souvent de direction, d'une façon abrupte, et que ça, les voitures autonomes ne peuvent pas s'en sortir. Ça ne va pas être de la faute des vélos, quand même. Non, mais ce n'est pas de la faute des vélos, il ne faut pas...
C'est effectivement un des problèmes qui a été identifié par des chercheurs, notamment en Californie, que les vélos posent problème, notamment dans le système de reconnaissance visuelle, parce qu'un vélo... Nous, voilà, pareil, l'humain sait ce que c'est qu'un vélo. Même si on met des sacoches, on met n'importe quoi sur un vélo, on est capable de dire ça c'est un vélo. Sauf que l'ordinateur, encore une fois, lui, il n'a pas un vélo. Si on lui explique que c'est deux roues et un monsieur debout sur un guidon, et s'il voit quelque chose avec des sacoches, avec deux personnes...
Avec un chapeau, avec des fleurs qui dépassent...
C'est très compliqué pour que nous arrive à extrapoler à partir d'une première vision. Et ensuite, il y a un deuxième problème qui est celui de l'anticipation. Le vélo, c'est très fluide, c'est très souple de... On change de direction très facilement et c'est très très difficile à anticiper. Le mouvement de la trajectoire d'un vélo est très difficile à anticiper. Or, dans la voiture autonome, une des choses qui est très travaillée, c'est l'anticipation. Or, le vélo, il pose beaucoup de défis aux technologies d'anticipation de trajectoire, en fait. Donc, le vélo, en un clin d'œil, il change de direction.
Arnaud de Villard, on comprend bien que c'est l'avenir et que ça peut être vraiment très bien pour la sécurité si on y arrive, mais c'est encore pas tout à fait au point. La voiture autonome 100% fiable, ça sera pour quand ? 5, 10, 20, 40 ans ?
Là, ce sont des échelles de temps très 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 floues.
On
sait pas. 2040, 2070 pour la voiture vraiment floue, vraiment autonome.
En tout cas, c'est la seule chose que vous ne savez pas dans Science et Avenir, parce que votre dossier est passionnant. Les failles de la voiture autonome est à lire donc dans ce magazine Science et Avenir. Merci Arnaud de Villard.
Vous écoutez RTL.